Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités du mardi 17 avril 2018. Hélène Denis avec vous en manchette aujourd'hui, l'école à la maison ou se soucier des enfants laissés pour compte. Une haie de cèdre pour un bras robotisé. Ottawa ne veut plus rejeter les immigrants sur la seule base de leur handicap. En entrevue, Annick Lavaugier, coordonnatrice de projet pour la Fédération québécoise de l'autisme, et Marc-Antoine d'Aragon, le baryton québécois qu'on pourra entendre au concert bénéfice pour les enfants de Syrie à la fin avril à Montréal. Nouvelle série du Devoir. Dans la foulée du projet de loi 144 adopté à l'automne dernier, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a publié la semaine dernière le projet de règlement qui s'appliquera à l'école à la maison. Le projet de loi est une avancée certaine, mais si la souplesse doit marquer cet encadrement, il y a lieu de se demander pourquoi le ministre n'est pas plus soucieux de la réussite de ses enfants. À l'heure actuelle, environ 2000 enfants font l'école à la maison au Québec, mais ce ne sont que les enfants que leurs parents ont déclarés à la commission scolaire. On estime qu'un même nombre d'enfants font de même sans qu'on ne sache rien de la nature de l'enseignement qu'ils reçoivent. Parmi les enfants qui reçoivent leur instruction à la maison, il existe plusieurs cas de figure. Ce peut être des enfants avec des besoins particuliers auxquels l'école publique répond mal, enfants handicapés ou autistes, des enfants que leurs activités empêchent de fréquenter assidûment l'école, des artistes ou des athlètes, ou encore des enfants dont les parents croient au mérite d'une autre forme d'éducation. À tous ceux-là s'ajoutent les enfants qui fréquentaient des écoles religieuses illégales et qui reçoivent aujourd'hui leur enseignement scolaire à la maison et leur enseignement religieux dans la communauté. Grâce à la loi adoptée en novembre dernier, le ministère pourra croiser les données de la Régie d'assurance maladie du Québec et celles de la fréquentation scolaire, ce qui permettra de savoir quels sont les enfants de 6 ans à 16 ans qui ne sont pas inscrits à l'école. C'est là un progrès notable. Québec lance sa politique de mobilité durable en transport. C'est tiré de la presse. Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui une nouvelle politique de mobilité durable promise depuis plus d'un an, à laquelle il prévoit consacrer quelque 3,5 milliards sur 5 ans afin de rendre les transports plus propres, entre guillemets, dans les centres urbains, aussi bien qu'en région. Le développement de services de transport collectif sera le plus grand bénéficiaire de cette politique, largement axée sur l'essor des transports électriques, et la création d'une gamme nouvelle de services plus confortables et attrayants afin d'en favoriser l'utilisation. La nouvelle politique contiendra toutefois des volets consacrés au transport aérien régional, au transport des marchandises, à l'accélération des investissements sur les pistes cyclables et les sentiers piétonniers et au soutien des nouvelles mobilités comme le taxi-bus et l'auto en libre-service. Les sommes prévues par Québec pour financer la plupart de ces initiatives ont déjà été annoncées dans le dernier budget provincial le mois dernier. La politique qui sera annoncée aujourd'hui contiendra toutefois plusieurs mesures et intentions législatives pour faciliter le virage vers une mobilité plus écologique et durable. Entre 2007 et 2011, une politique de développement des transports collectifs a permis de financer de nombreuses initiatives pour améliorer les services de métro, de train, de banlieue ou de bus. Ces améliorations de services ont entraîné une hausse globale de fréquentation de 11 % à l'échelle du Québec dans les transports collectifs. La nouvelle politique de mobilité durable qui sera présentée aujourd'hui est beaucoup plus large. Elle touchera toutes les dimensions du transport avec un objectif clair de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on joint Annick Lavaugier, coordonnatrice de projet pour la Fédération québécoise de l'autisme. Bonjour, Madame Lavaugier.
Bonjour.
À l'occasion du mois de l'autisme, on est en plein dedans, mois d'avril, vous avez édité un document pour la presse sur comment aborder et parler de l'autisme. Excellente initiative. Alors, quelles sont les erreurs les plus fréquentes venant des médias?
Alors, on va remarquer souvent que les médias, surtout la presse écrite, va parfois parler de l'autisme en termes qui sont pas nécessairement respectueux pour les personnes autistes. Par exemple, on va dire que les gens souffrent d'autisme ou s'ils sont atteints d'autisme.
Mais c'est pas de la mauvaise volonté, hein?
Non, bien sûr, c'est pas du tout de la mauvaise volonté. Je pense que c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Il y a beaucoup d'informations, pas nécessairement erronées, mais mal formulées, puis les gens vont chercher l'information où ils peuvent, puis il y a quelques termes qui ont tendance à froisser les personnes autistes et aussi les parents qui vivent une réalité dont ils aimeraient qu'elle soit correcte, plus correctement reflétée dans les médias. Et c'est vrai que parfois, quand on lit des articles ou quand on voit des émissions où l'autisme est présenté comme une maladie ou comme une épidémie ou des choses comme ça, ben c'est sûr que les gens ont tendance à être un peu outrés de lire ça. Puis du coup, nous, on avait décidé de faire un document assez court pour permettre aux gens qui connaissent pas l'autisme, parce que tout le monde peut pas le connaître, et c'est pareil pour les médias, eh bien, ça leur permet d'avoir comme un petit rappel de quelques faits, donc quelques statistiques pour être au courant des dernières statistiques, par exemple sur le taux de prévalence, sur le ratio homme-femme, etc., mais aussi sur quelques mots qu'on n'utilise pas et quelques mots qu'on utilise. Par exemple, pour nous, c'est assez simple, on parle d'une personne autiste. Point. On n'est pas obligé de parler d'une personne avec, atteint, souffrant, etc. C'est juste une personne autiste, que ce soit un enfant, un adulte, etc. Fait que c'est vraiment un petit document assez simple pour éviter des petites erreurs qu'on peut voir dans la presse.
Alors, c'est bon pour les médias, mais ça peut être aussi bon pour monsieur, madame, tout le monde?
Oui, c'est bon pour monsieur, madame, tout le monde. Ça va être aussi bon, par exemple, pour, je sais pas moi, une personnalité publique ou des politiciens qui veulent juste avoir un petit récap de ce que c'est, l'autisme et comment en parler de manière respectueuse. Fait que ça peut fonctionner en tous les niveaux. C'est même un document qu'une personne autiste pourrait donner à son entourage pour juste avoir quelques infos puis savoir comment on peut se froisser mutuellement pour des choses qui sont faciles à savoir. Mettons, une fois qu'on a intégré comment en parler, ben on en parle facilement, puis avec positivisme, puis c'est mieux.
Oui, alors j'ai reçu ici quelques exemples, mais vous en avez donné déjà. Maladie, guérison, ça n'a rien à voir. L'autisme, c'est une condition, un état.
Exactement.
Et on n'est pas atteint d'autisme, on ne souffre pas d'autisme, vous l'avez déjà dit, mais on peut être autiste.
Voilà, on est autiste.
On est autiste.
On est autiste, puis on est autiste toute sa vie. Parfois, dans la vie, on a des difficultés qui évoluent. C'est des gens qui ont un potentiel, comme tout le monde, qui vont changer, évoluer avec le temps. Leur potentiel va se développer, ils vont avoir des forces et des défis, des limites, tout ça fait qu'ils vont évoluer, mais toute leur vie, ils vont rester autistes. Donc, et à côté de ça, ils ont aussi des particularités, des traits de personnalité qui n'ont rien à voir avec l'autisme, mais qui font partie d'eux. Et parfois, le raccourci est un peu fait. On va dire qu'à tel aspect d'une personnalité, c'est lié à l'autisme. Mais non, l'autisme, c'est vraiment... Faut se souvenir que c'est vraiment... les personnes autistes ont des difficultés dans deux domaines. La communication, les interactions sociales et les comportements, activités, intérêts restreints ou répétitifs.
Alors,
allez-y.
Non, mais le document va être très, très apprécié et surtout utile. Et vous avez décidé, en plus du document, de lancer une émission radio.
Oui. Alors,
en fait, une balado-diffusion, je ne sais jamais si on dit une ou un, le spectre sur les ondes. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, en fait, c'est une émission de recherche une émission de radio, donc en balado-diffusion, qui a pour objectif de partager des résultats de recherche scientifique sur les familles d'enfants autistes au Québec. Et en fait, on permet à des chercheurs de présenter leurs résultats de recherche de façon quand même un peu vulgarisée pour que ce soit accessible à tout le monde.
Mm-hmm.
En une vingtaine de minutes, vous aurez accès à des résultats de recherche. Et l'idée du projet, c'est d'avoir à la fois des chercheurs, mais aussi des parents pour parler de comment ils voient, comment ça s'applique dans leur réalité à eux. Par exemple, la première saison, ça va porter sur l'argent et l'autisme, en fait. Donc, le premier épisode va porter sur les enjeux financiers, l'argent au sein des familles. Et on a invité Catherine Desrivières-Prigeon, qui est une chercheuse à l'UQAM, excusez-moi. Et on va avoir trois autres épisodes qui vont aussi porter sur l'argent. Et on va avoir des invités différents. Il y a notamment une intervenante qui va participer et au moins un parent.
Et comment on va pouvoir écouter cette émission de radio?
Alors, pour l'instant, les épisodes sont annoncés en première page de notre site. Ils sont disponibles sur SoundCloud. Donc, si vous tapez le spectre sur les ondes dans la barre de recherche de SoundCloud, vous allez tomber dessus. Puis, ce sera bientôt disponible également sur iTunes.
Et quelles sont les dates à retenir?
Alors, le premier épisode a déjà été publié. Les prochains épisodes seront publiés les 25 avril, 9 et 23 mai.
Et celui qui a déjà été publié ou qui est maintenant accessible, est-ce qu'on peut on peut l'écouter sans problème?
Oui, il est en ligne. Il est mentionné en première page de notre site à autisme.qc.ca. Ou sinon, sur SoundCloud, il est disponible. Tout est là. Vous pouvez aller voir. Sur notre site Internet, on a créé une page pour parler de tout le projet. Donc, vous pourrez en savoir plus aussi sur l'équipe, sur les partenaires financiers. Vous pouvez aussi nous contacter. Et on a ajouté, en plus des épisodes, quelques outils, références, quelques livres, quelques articles dans la presse, mais aussi des conseils de parents, etc. Fait qu'il y a aussi un petit onglet. Outils références.
Annick Lavaugier, coordonnatrice de projet pour la Fédération québécoise de l'autisme. Merci pour cette entrevue, puis bon succès avec votre document et votre émission de radio.
Merci à vous. Passez une excellente journée.
Merci. Bloc régional dans le nouveliste.ca, une haie de cèdre pour un bras robotisé. À Shawinigan, on connaît bien la fondation Le Pont vers l'autonomie qui amasse de l'argent afin de procurer un bras robotisé à des personnes lourdement handicapées. Deux jeunes hommes de Victoriaville ont décidé d'embrasser la cause à leur façon en plantant des haies de cèdre en Mauricie et au centre du Québec cet été, dans le but de remettre une part de leurs profits à cette fondation. Anthony Beauchesne et Louis-Philippe Dubois viennent de lancer leur entreprise DB Entretien Général. Leur travail consiste à offrir divers services d'entretien et de rénovation extérieure, de même qu'un service de plantation de haies de cèdre incluant le creusage de la tranchée, la pose des arbres aux 18 pouces, de même que l'installation de tuyaux d'arrosage, d'engrais et de compost. Au lieu de payer des placements publicitaires pour se faire connaître, les deux entrepreneurs ont décidé de s'associer à la fondation Le Pont, vers l'autonomie et de lancer une campagne estivale appelée « La haie vers l'autonomie ». Leur objectif est de poser, au cours de la saison estivale, suffisamment de haies de cèdre en Mauricie au centre du Québec pour pouvoir récolter la somme de 30 000 $ qu'ils vont remettre ensuite à la Fondation. Ils vont ainsi contribuer à l'achat de 6 bras robotisés qui seront remis à des personnes handicapées en 2018. Parmi ces bénéficiaires, on compte Vincent Gervais, un jeune Shawinigannais de 16 ans qui fréquente l'école secondaire Val-Mauricie, où il suit une formation en dessin en bâtiment. Créée en 2013, cette fondation a permis jusqu'à présent de remettre 18 bras robotisés. Dans le soleil.com, soutenir la santé mentale. Le cas de X, tel que décrit dans la chronique de Mylène Moisan du 7 avril 2018, n'est pas un cas isolé. Mais à ma connaissance, c'est la première fois au Québec qu'un jugement du tribunal administratif du Québec impose à un établissement de soins psychiatriques de rendre disponibles des traitements qui mettent l'accent sur les besoins d'une personne pour sa réadaptation et sa réinsertion sociale sécuritaire. Ce constat est primordial, car il est le reflet de changements progressifs de la culture de notre société vis-à-vis la maladie mentale. La notion de soins en psychiatrie englobe depuis 1960 la santé physique et maintenant aussi la réadaptation et à la réinsertion sociale des personnes traitées pour une maladie mentale chronique. c'est la reconnaissance du droit d'un individu à une médecine personnalisée en psychiatrie. Notre société change. Plusieurs mouvements populaires témoignent de cette volonté de changement qui brise le silence devant des situations qui ne sont plus supportables, comme on a vu avec l'indignation de la population face au sort que Walmart a réservé à certains de leurs employés, ou au mouvement MeToo et celui des adolescents américains après la dernière tuerie. Il est important de continuer de mettre en lumière ce qui est inacceptable, les cas X qui demeurent en institution par défaut, ainsi que la quasi-rupture de services de médecins pour traiter les maladies physiques des patients psychiatriques hospitalisés à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, sont des exemples de l'inacceptable. Est-ce un hasard que ces situations se passent au même endroit? S'interroge Roch H. Bouchard de Sainte-Pétronille. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Marc-Antoine d'Aragon, baryton québécois qu'on pourra entendre au concert Bénéfice pour les enfants de Syrie le vendredi 27 avril à compter de 19h. Bonjour, M. d'Aragon.
Bonjour, Mme Denis.
Alors, qui est à l'initiative de ce concert Bénéfice?
C'est l'Institut d'études méditerranéennes de Montréal, dirigé par Sylvana Viata depuis bien nombre d'années, qui s'intéresse aux questions méditerranéennes, beaucoup au Moyen-Orient, et donc à la Syrie. Donc on a droit à de la musique d'inspiration syrienne, mais aussi plusieurs arts d'opéra. On est plusieurs chanteurs d'opéra d'ailleurs qui participeront à l'événement.
Oui, d'ailleurs, qui seront les artistes présents à ce concert?
Bon, les artistes opératifs, nous aurons Geneviève Lévesque, mezzo-soprano, Richard Nicolas Villeneuve, qui est ténor, moi-même baryton, Hakim Bouda, qui nous accompagnera au piano. Donc ça, ce sont vraiment les artistes là, qui rayonneront en termes de musique plus classique. Et Marianne Lambert aussi, ma complice avec qui je fais beaucoup de concerts depuis longue date. D'ailleurs, on a participé à plusieurs concerts ensemble déjà à l'Institut d'études méditerranéennes de Montréal. Richard Turp, d'ailleurs, est le directeur artistique délégué pour l'occasion, qui travaille conjointement avec Sylvana Viata là, sur la programmation. Le fils de l'illustre André Turp.
Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à un concert bénéfice pour les enfants de Syrie?
Mais évidemment, moi, j'ai une affection profonde pour la Syrie. J'y ai travaillé pendant un an et demi. Je faisais des allers-retours à 7 reprises. Je suis allé à Damas, en Syrie, pour travailler auprès de la Maison d'Opéra comme consultant auprès du ministère de la Culture là-bas, ainsi que chanteur. Là, j'ai chanté avec l'Orchestre symphonique de Syrie. J'ai encore beaucoup d'amis en Syrie. Damas a été un peu une deuxième maison pour moi jusqu'en 2010, jusqu'à temps que le conflit éclate. Donc, c'est sûr que je m'attriste énormément de ce qui se passe là-bas. Puis je pense que ces initiatives-là sont absolument nécessaires pour sensibiliser les gens ici, puis aussi récolter des fonds pour aider les gens sur le terrain là-bas.
Et justement, comment les dons seront utilisés?
Écoutez, ça, c'est une question très pointue. Je pourrais pas vous indiquer précisément. Je sais que les dons qui sont récoltés sont ensuite transmis à un organisme sur place. De là, vous indiquer exactement comment c'était visionné, je peux pas vous indiquer de quelle façon. Je suis pas derrière cette initiative dans ce sens-là, mais je voulais d'en faire partie comme artiste.
Oui, on va peut-être en parler le soir même du concert.
Absolument, oui, sans aucun doute.
Les billets le coût des billets est entre 50 et 200 $. Alors, c'est vraiment un concert bénéfice.
Et, exactement.
Si on veut réserver des places, comment on procède?
Vous pouvez vous rendre sur le site web. Attendez que je vous trouve le site web. Je suis en train de chercher ça à l'instant. J'ai pas.
Ben moi, j'ai ici info@iemm pour Institut d'études méditerranéennes de Montréal.ca.
C'est ce que j'ai aussi.
Ça, c'est une adresse courriel.
Exactement. Je me demandais s'il n'y avait pas un autre moyen pour procurer les billets parce que, effectivement, mes convives à moi, jusqu'à se sont procurés des biens en s'adressant directement à l'Institut d'études méditerranéennes. Mais je pense qu'il y a un autre moyen.
Oui, il y a Anne-Laure, ma recherchiste, qui me donne le site web linitiative.ca/concert-bénéfice pour les enfants de Syrie, vendredi 27 avril, 19h. Ça ne peut pas être plus clair.
Ça peut pas être. Voilà, c'est exactement ça.
Alors, ça se déroule à Montréal. Vous pouvez nous dire où?
Oui, à la salle Marie-Stéphane. C'est une superbe salle de l'école de musique Vincent Dindy.
Ah oui?
Pour ceux qui connaissent le pensionnat du Saint-Nom-de-Marie sur le chemin de la côte Sainte-Catherine, qui a cette magnifique salle dans laquelle l'École de musique Vincent Dindy œuvre aussi.
Qui contient combien de places?
C'est une salle à peu près 400 places. Donc, c'est quand même restreint comme emplacement, là, mais on a assez de place pour offrir à nos convives. Il y a encore quelques billets disponibles là, pour l'événement.
Et vous, quel rôle vous allez jouer? Qu'est-ce que vous allez chanter?
Ben, je chante plusieurs petits extraits d'opéra, dont un extrait de la Flûte enchantée de Mozart. Je chanterai aussi une pièce en arabe, Yahazali. Il y a des duos aussi d'opéra. Je ferai un duo avec Richard-Nicolas Villeneuve, extrait de la Bohème de Puccini. Donc, des choses assez populaires qui sont interprétées dans le concert, la Fidarena Mano aussi, qui fera partie du menu, et un ensemble, la Forza del Destino, que Marianne Lambert chantera avec les autres chanteurs qui joindront à elle en tant que choriste pour l'événement. Puis, il y a aussi des œuvres pour guitare classique. On aura Adam Ciccilletti qui jouera la guitare. Et aussi l'Orchestre de chambre musicale de Montréal avec Julie Triquet, la violence solo, qui fera le printemps de Vivaldi mm-hmm. évidemment. Ouais. Donc, pour terminer le programme. Puis en entrée de programme, on aura une partie beaucoup plus arabe, si on veut, avec Alexandre Etier et 12 guitares et contrebasses. Puis des œuvres qui seront extraites là, de musique arabe.
Est-ce qu'il y aura des artistes syriens?
On a des artistes syriens comme Hakim Bouda, qui est un pianiste assez versatile, qui œuvre sur la scène plus classique, mais qui est aussi un musicien qui connaît bien la musique orientale aussi.
Alors, on ira entendre ce concert bénéfice pour les enfants de Syrie. C'est le vendredi 27 avril, 19h, sous la direction artistique de Richard Turp. C'est à la salle Marie-Stéphane du pensionnat Saint-Nom-de-Marie, situé au 628 chemin de la côte Sainte-Catherine à Outremont. Et pour nous donner un petit avant-goût de votre voix, on va se laisser avec une interprétation que vous avez faite des « Les berceaux » de Gabriel Fauré. Ça vous dit quelque chose?
Bien entendu.
Alors,
magnifique pièce qui n'est pas extraite du répertoire opératique, mais du répertoire lyrique tout de même, qui nous laisse planer sous ce matelot qui s'en va loin de sa bien-aimée, engrossi, mais lui, il n'en sait rien.
Bon. Voilà. Alors, on se laisse en planant. Marc-Antoine d'Aragon, baryton québécois, merci beaucoup et puis bon concert le 27 avril.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Ce jour-là. Ça aurait été un sacrilège de couper cette chanson. Alors, j'espère que vous avez apprécié Les Berceaux, Gabriel Fauré, interprété par Marc-Antoine d'Aragon, baryton québécois, qui sera du concert Bénéfice pour les enfants de Syrie vendredi 27 avril 19h, avec qui on s'entretenait. On poursuit avec le bloc national et international. Une nouvelle tirée du site de Radio-Canada. Le gouvernement fédéral modifie sa politique d'interdiction de territoire pour les immigrants handicapés afin de permettre à un plus grand nombre d'entre eux de s'installer au Canada sans aller toutefois jusqu'à l'éliminer complètement. Cette politique vieille de 40 ans ne correspond plus aux valeurs canadiennes d'inclusion, d'accessibilité et de respect des droits de la personne, selon le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, qui en a fait l'annonce hier. Ces changements correspondent à ce que les Canadiens croient, soit que les personnes handicapées peuvent faire une contribution au Canada et que nous devons en faire plus pour soutenir leur participation à notre société. Un comité de la Chambre des communes recommandait au gouvernement en décembre d'éliminer complètement la notion de fardeau excessif dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Toute demande d'immigration d'une personne qui aurait représenté un tel fardeau pour le système de santé et les services sociaux peut être rejetée en vertu de ce critère. La loi prévoit quelques exceptions pour les réfugiés, de même que pour les conjoints et les enfants qui entrent dans la catégorie du regroupement familial. Nous avançons de façon responsable en faisant les changements qui sont présentement nécessaires pour que cette politique corresponde aux valeurs canadiennes et à la position de notre gouvernement, mais nous devons aussi le faire de façon à rallier les provinces, a expliqué le ministre Hussein. Un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission Les Paractualités du mardi 17 avril 2018. Merci à mes invités, Annick Lavaugier, coordonnatrice de projet pour la Fédération québécoise de l'autisme, et Marc-Antoine d'Aragon, baryton québécois, qui participera à un concert bénéfice pour les enfants de Syrie. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Maurice Bolduc à la technique. À demain!